Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toi, chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser des questions que l'on se pose souvent en tant que parent, et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines, et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. La communauté Patreon du podcast permet de le soutenir financièrement en accédant à des contenus exclusifs. Si tu as envie de rejoindre cette communauté, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr/parentsinformés. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Ce 43e épisode est la suite du 42e sur la pédagogie Montessori. On retrouve donc Élise Lemoine, qui est éducatrice Montessori et la créatrice de MOM, entreprise dans laquelle elle propose des ateliers aux parents et aux professionnels de la petite enfance pour comprendre le fonctionnement de l'enfant et pour construire un environnement humain et matériel adapté. Après avoir détaillé le parcours de Maria Montessori et les piliers de sa pédagogie dans l'épisode précédent, Élise nous aide ici à faire le tri de ce qui est nécessaire pour adapter l'environnement de la maison au développement de l'enfant. L'idée étant d'observer à sa taille et en fonction de ses besoins pour lui offrir le plus d'autonomie possible. Que ce soit dans l'entrée, la salle de bain, la chambre ou la cuisine, vous trouverez plein de pistes à vous de piocher dans celles qui vous parlent et qui sont réalisables pour vous. Élise propose également tout un tas d'activités en fonction de l'âge de l'enfant, de 6 mois à 6 ans, et vous verrez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour proposer des plateaux d'activités captivants pour vos enfants. J'espère que cet épisode te plaira et te souhaite une belle écoute.
Donc du coup, effectivement, on a bien vu la théorie. Quand on veut faire ça chez soi, par quoi on commence? Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait toujours en tête dans les grands principes et quels sont les premiers trucs qu'on peut faire?
Donc une fois qu'on a saisi comment l'enfant fonctionne, que l'on connaît ses besoins fondamentaux pour se construire, alors on va pouvoir y répondre donc, à travers la mise en place des trois piliers. Donc se préparer soi adulte pour savoir comment se positionner face à l'enfant, comment lui parler, pour lui offrir ce cadre chaleureux et sécurisant dont il a besoin pour évoluer. Et c'est un pilier qui est fondamental à mettre en place. C'est le premier et c'est vraiment d'incarner un modèle de bienveillance, un parent conscient de son impact sur le développement de l'enfant et confiant dans ses capacités à le guider. C'est ce que je disais par rapport à l'esprit absorbant. À partir du moment où on sait que tout ce qu'on fait, l'enfant, il l'intègre sans effort et naturellement, portons un petit peu d'importance sur notre posture. Et déjà, rien que ça, c'est beaucoup parce qu'on met de la conscience en fait dans notre accompagnement. Beaucoup de choses se jouent dans la posture de l'adulte. Voilà, il y a ces neurones miroirs qui sont en action. Donc, sans se mettre la pression, on essaye d'écouter les besoins qu'il exprime, ne pas intervenir dans les expériences qu'il tente, d'être plutôt ce guide. un observateur en retrait qui fait confiance à son enfant et qu'il laisse explorer seul, parce que c'est comme ça qu'il apprend. Il apprend à travers ses sens, et parce qu'il apprend, il teste, et ça, c'est déjà énorme. Et puis ensuite, on va préparer l'environnement qui va répondre aux besoins de l'enfant et pour développer tous ses potentiels, et choisir des activités, parce que c'est aussi facile de fabriquer des activités Montessori à la maison. Une fois qu'on a compris ce dont l'enfant a besoin dans une activité pour se concentrer, eh ben on va lui mettre à sa disposition, et l'enfant, voilà, il va explorer le monde, voilà, se construire à travers les activités qu'on va lui proposer. Et ensuite, on va faire évoluer ces trois piliers naturellement en fonction des besoins de notre enfant. On va toujours suivre l'intérêt de notre enfant. Par exemple, s'il nous exprime un besoin, c'est son envie du moment, il est absorbé par les dinosaures, on va créer du matériel, pourquoi pas, autour des dinosaures, mais pour derrière aller chercher l'enrichissement de vocabulaire, la mise en place du dénombrement, donc des petits jeux avec, pour faire travailler les mathématiques. Voilà. Mais on part toujours de l'envie de l'enfant, et on va proposer des activités constructives. Et puis chez soi, ce qu'on peut faire très simplement, c'est développer l'autonomie de son enfant en préparant, aménageant notre maison, en choisissant du mobilier à sa hauteur, en mettant des marchepieds pour accéder au lavabo, des patères à sa hauteur pour accrocher son manteau. Voilà, essayer d'organiser la maison pour qu'il puisse être acteur, qu'il puisse évoluer seul, faire des choses par lui-même. C'est comme ça qu'il va grandir en confiance, et va se nourrir, va se responsabiliser. Et donc, voilà, un enfant, il a besoin d'être nourri, et vraiment qu'on le regarde avec un grand regard porteur, vraiment ce regard qui lui dit « mais vas-y, je te fais confiance, voilà ».
Ok.
Et l'environnement qu'on va préparer, on mettra au début en place, on aura appris les informations clés. Et puis ensuite, ça va être naturel, l'enfant, il va évoluer librement dans cet environnement. Et vous allez le voir grandir, aller chercher ses activités, les ranger, etc. Et vous aurez plus de temps, parce que tout sera en place, en fait. Les écoles Montessori, le matériel, il est là de septembre à juin, on ne change pas tout le temps. On a créé l'environnement qui correspond aux besoins de l'enfant. Et ensuite, on n'a plus qu'à observer, présenter les activités, faire des rotations de matériel en fonction des besoins de l'enfant. Et puis, être présent pour créer du lien avec lui, etc. Mais l'enfant, il a ce dont il a besoin. Donc, il est plus apaisé. Donc, la vie de famille, elle est plus harmonieuse, elle est plus douce, en fait. Chacun se sent vraiment respecté dans ses besoins, reconnu dans ce qu'il est, et guidé, voilà. C'est pour ça que j'appelle ça une philosophie de vie, ça touche à tout, c'est un écosystème, en fait. Quand on touche à l'environnement, on touche à la posture de l'adulte, on touche au matériel, on a un besoin, on va y répondre à travers ces trois piliers, et une fois qu'on a compris ça, c'est assez simple ensuite de le mettre en place à la maison.
Quand tu parles d'adapter son environnement, selon toi, quels sont les éléments ou le mobilier qu'il est absolument nécessaire d'avoir à la maison, ou en tout cas qu'il faut acquérir en priorité pour pouvoir adapter sa maison? J'ai retenu de ce que tu as dit tout à l'heure une table à sa hauteur avec des chaises où il a les pieds qui touchent par terre, des marchepieds pour qu'il puisse accéder à ce qui est dans la maison et qui n'est pas à sa hauteur d'habitude. Est-ce qu'il y a autre chose?
En fait, le plus simple, c'est d'aller d'entrer dans sa maison, de se mettre à la taille d'un enfant, et puis de voir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Tiens, on est dans l'entrée, on met un manteau, on met une petite chaise pour qu'il s'assoie, on lui met dans un panier ses gants, sur une petite table, on met des mouchoirs, il y a un miroir à sa hauteur. Comme ça, que ce soit le matin ou le soir, il arrive ou il part, il se prépare seul, il a tout à disposition. Au début, on l'accompagne, on lui présente, on lui montre comment on s'en sert. On va pourquoi pas mettre une petite fiche des routines où l'enfant, il voit des trois pictos. On ne va pas en mettre beaucoup parce que l'enfant, il ne peut pas mémoriser beaucoup de choses. Puis, on ne va pas lui faire une checklist, une to-do hyper longue, mais voilà, chaussures, laver les mains, se brosser les cheveux, je ne sais pas, avant de partir. Et puis, il a ça, c'est prêt. Et au début, voilà, il va petit à petit se l'approprier. Après, on va dans la salle de bain. Alors, un marchepied pour accéder au lavabo. Il y a des rallonges à robinet pour qu'il puisse accéder à l'eau facilement. Un savon adapté à sa taille. Voilà, toujours le petit miroir, etc. pour ensuite avoir accédé à sa brosse à dents. Il va dans sa chambre, un lit où il peut y monter sans problème. Donc, c'est pour ça aussi qu'on propose un lit bas aux enfants. Moi, je le conseille vers 2 ans. Voilà, ça dépend vraiment des familles. Il y en a qui peuvent le mettre dès la naissance. Il faut savoir que l'enfant, quand il naît, il a vraiment besoin d'être contenu dans un couffin, en tout cas, et surtout sentir les limites de son lit, de lieu de sommeil. Et après, petit à petit, on va pouvoir le mettre sur un lit au sol. Et ça, c'est super pour l'autonomie, c'est super pour développer. Voilà, il est dans sa chambre, il est dans son petit cocon, il est autonome. Après, on peut très bien aller jusqu'à mettre une armoire où il y a quelques vêtements qui sont accessibles pour qu'il puisse choisir. Donc, on ne va pas faire un grand choix de vêtements, mais on peut en proposer 2-3. Qu'on va choisir peut-être ensemble la veille pour pas que le matin on soit pressé, on fait ça la veille, une petite chaise pour s'asseoir et s'habiller. On va faire tout ce qui tout ce qui est éveil. On va mettre une étagère avec des jouets à une place et une même place pour essayer que l'enfant sache où ranger son jouet. On répond aussi à la période sensible de l'ordre où on a quelque chose d'ordonné, on a quelque chose d'épuré, on a des rangements accessibles, visibles, pour que l'enfant sache où les ranger et que quand il souhaite un jouet, il sache où c'est. On va essayer de faire du tri dans les jouets pour essayer de voir ce qui est le plus constructif pour lui, pour pas qu'il y ait trop de jouets, et que pareil pour la concentration, pour le sommeil, tout ça, c'est pas super. Donc c'est vraiment rendre accessible tout. Après, dans la cuisine, on peut proposer une tour d'observation. Donc c'est un marchepied qu'on sécurise en hauteur pour qu'il accède au plan de travail et qu'il puisse cuisiner avec nous. Donc ça, c'est super parce que les enfants, ils adorent. Vers 18 mois, ça commence à être la période de la collaboration. Donc ils veulent faire avec nous. Donc faut vraiment les inviter à participer aux tâches de la maison et leur montrer les gestes clés pour éplucher un concombre, enlever une peau de banane, voilà, couper des petits morceaux. Donc, on leur propose, là encore, du matériel qui est adapté à la taille de la main et qui soit sécurisé. Il y a des petits couteaux qui sont super bien faits. On a des épluches légumes, pareil, qui ont une prise en main où il n'y a pas de souci pour que l'enfant se coupe. C'est ce qu'on appelle la vie pratique en école Montessori. Mais à la maison, en fait, c'est simplement leur faire participer aux activités de jardinage, de bricolage. On va laver le linge, on va vider le lave-vaisselle. Et ça, les enfants, ils sont hyper friands de ce type d'activité. Et c'est là où ils vont développer leur motricité fine. Voilà, chaque chose va construire le mouvement. Ils vont se concentrer et ils adorent. Donc, il y a vraiment l'envie qui est là. Donc, c'est des activités qui peuvent vraiment les faire travailler pendant un temps avec vous, créer cette relation. Voilà, c'est des super activités à proposer. Donc voilà, c'est déclinable sur plein de choses dans la maison.
Ça marche. Tout à l'heure, tu parlais des étagères avec des jouets bien à leur place et épurés. En moyenne, combien de jeux ou de plateaux d'activités on laisse à disposition en même temps à l'enfant ?
Alors ça va dépendre un petit peu de l'âge. Bon, au début, l'enfant, quand il est tout petit, il se lasse très vite. Les temps de concentration sont très courts. Donc, on peut en proposer 10, mais il va y avoir surtout, par exemple, des balles sensorielles, des hochets qui vont du coup être dans des paniers. Après, quand l'enfant grandit, on peut dire en moyenne vers 15-18 mois, on peut en proposer 6 à 10. Ça dépend aussi de l'espace qu'on a. En fait, on parle de rotation de matériel. On va en proposer 6, par exemple, qui vont à la fois enrichir le langage, coordonner les mouvements, qui vont remplir plusieurs objectifs. Et puis, on observe l'enfant les manipuler, on voit vers quoi il se dirige. Et puis, si par exemple, on sent que le matériel c'est maintenant un peu passé, l'enfant, c'est un peu trop facile pour lui, on va le ranger et à la place, on va en mettre un autre qui peut permettre à l'enfant de travailler développer une autre acquisition et qui va un peu plus le challenger. On va essayer d'avoir un niveau de challenge intéressant pour que l'enfant ait envie de se dépasser. C'est ça qui va permettre la concentration, c'est que l'enfant il est en train d'essayer de réussir son activité sans mettre en échec l'enfant. Il ne faut pas que le niveau soit trop élevé. Donc, c'est à nous, en fonction, encore une fois, de connaître son niveau de développement, son niveau de concentration, son niveau de son développement de sa motricité, en observant ce qu'il fait, voir ce qu'on peut lui proposer. Et on fait des rotations, c'est-à-dire qu'il y a du matériel rangé dans un placard fermé où l'enfant n'a pas accès. Et nous, sur son petit étagère, on propose un matériel voilà, sur plateau ou pas. Ça dépend quel matériel, il y en a qui se... Et on observe, on voit si ça l'intéresse ou pas. Et ça permet d'avoir une chambre épurée, une chambre où l'enfant il n'a pas trop de stimulation, parce que s'il a des bacs en jouets remplis d'activités, bah, il ne sait plus ce qu'il a, il ne sait plus comment s'en servir. Voilà, ça peut être beaucoup de désordre, alors que l'enfant il a besoin d'ordre, il a besoin de se concentrer.
Ok. Oui, moi je n'applique pas du tout ça chez moi, c'est le bordel. Et du coup, ma fille, elle sort tout. Voilà, ouais. Ma petite de 4 ans et demi, elle renverse tout. Et puis après,
il joue. Ouais, après ils trouvent leur ouais, parfois il y en a qui aiment beaucoup le bazar et puis ils trouvent leur organisation personnelle. Mais
moi la mienne elle est pro du désordre, c'est-à-dire ouais. Qu'en 3 jours on ne peut plus marcher dans la chambre.
Ouais. C'est... il y a qu'elle elle a préparé son territoire quoi.
C'est ça, mais bon, j'ai été très nulle dans la pédagogie Montessori donc.
Et puis après, on range tout en jouant, en mettant de la musique et puis voilà.
Exactement. Chez nous, la règle, c'est on range une fois par semaine. Le dimanche soir, on range tout.
Et bien ça, c'est une routine, ça.
Voilà. Et puis après, là, la semaine, eh ben, elle fait comme elle veut et on maintient aménagé un chemin qui va de la porte au lit.
Et bien voilà.
Pour que la nuit, je puisse y accéder.
Qui va à tout le monde. En fait, c'est ça aussi. C'est une organisation qui convient à tout le monde, une organisation qui est clairement dite et affichée. Et voilà, on sait qu'à un moment, il va falloir ranger et que par contre, on a bien profité, on s'est amusé. Et c'est ça qui est. Voilà, il ne faut pas trop se mettre la pression. Moi, quand je partage la pédagogie Montessori, je partage ce que j'ai appris dans ma formation. Et ensuite, on discute, quand je parle aux parents, voilà, on descend un petit peu en pression, parce que sinon, on n'est pas là pour être dans une école non plus, où tout est réfléchi, et voilà, il y a la vie qui est là, faut accepter que ça ne soit pas non plus... faut vraiment, et encore une fois, avoir nos besoins à nous en tant que parents, et puis et voir comment on en discute avec les enfants. Tout ça, c'est une relation, quoi.
Ok. On va essayer de donner des types d'activités par âge et pour que les parents ils aient un peu des idées de ce qu'ils peuvent proposer. Alors, j'avais formulé ma question avec un peu d'humour pour te demander quelles étaient les activités à mettre en œuvre qui sont pas chères, faciles à mettre en œuvre, qui n'en mettent pas partout et qui vont occuper nos enfants pendant très, très longtemps.
Bah oui, parce que c'est vrai qu'il y a la période où ils sont tout petits, où on va leur faire manipuler de la patouille, de la semoule. On voit dans les vidéos Montessori où on transvase du riz, il y en a partout.
C'est vrai ça.
Que ça, faut être motivé pour le faire. Non, il y a plein d'activités qui sont, pour le coup, où tout peut rester très propre. Bah, déjà, on va éveiller chacun des sens et un sens à la fois. Donc, pour les tout-petits, donc vers 6 mois, ça va être déjà observer un mobile sur un tapis d'éveil, c'est déjà super, parce que l'enfant, quand il arrive au monde, il y a tellement d'informations que rien qu'observer sa maison, voir tout ce qu'il y a autour de lui, c'est beaucoup d'informations. Donc, après, on va mettre des mobiles parce qu'on va... pareil, s'adapter à la vue de l'enfant, éveiller le sens, donc un sens à la fois. Ensuite, on a des hochets en bois pour le sens tactile, des grelots pour le sens auditif. Voilà, vous l'avez compris, le raisonnement. Et puis, on va être très présent, on va jouer, on va chanter, on va vraiment créer du lien. C'est donc à travers la relation que le bébé s'éveille, prend conscience de lui, d'être au monde, d'être aimé. Et ça participe vraiment à renforcer ce lien d'attachement qui va le suivre tout au long de sa vie et qui va lui donner envie ensuite d'explorer. Donc ça, c'est pour les petits bébés qui sont non marcheurs. À partir du moment où l'enfant s'assoit déjà, il y a une autre étape qui se passe. On va pouvoir faire travailler l'enfant avec ses deux mains. On va lui proposer des boîtes à encastrement. Donc là, facile, bah, on va prendre une boîte, par exemple une boîte de lait infantile. On va faire un trou et on va lui montrer comment on insère des bouchons de plus en plus petits, parce qu'on va raffiner le mouvement. Voilà, la coordination humaine va être de plus en plus fine. Donc, le mouvement va se travailler. Donc, on va surtout travailler celui de la pince. C'est le pouce index majeur qui est une préparation indirecte à l'écriture. Et on parle de préparation indirecte voilà, parce que l'enfant apprend au contact de l'environnement et du matériel. Et puis, voilà, l'enfant va manipuler des boîtes d'encastrement, les puzzles, et voilà, ça va évoluer en fonction du développement de l'enfant. On va faire évoluer le niveau de difficulté. Et on commence toujours par isoler la difficulté, donc une seule forme d'encastrement pour commencer. Et l'enfant va répéter l'action jusqu'à ce qu'il maîtrise cette action. Et puis ensuite, on va ajouter une suite d'actions qu'il maîtrise, donc des puzzles avec plusieurs formes d'encastrement. Après, vers 8 mois, l'enfant a besoin d'intégrer la notion de permanence de l'objet qui va l'aider à se sécuriser. Donc la permanence de l'objet, c'est quoi? C'est la notion qui permet d'intégrer qu'un objet ou une personne existe encore, même si on ne l'aperçoit pas, enfin, ou plus par ses 5 sens. Et ça, c'est une notion qu'il a besoin de répéter. Donc, il va travailler avec des boîtes à permanence de l'objet. Donc là aussi, on peut facilement fabriquer avec une boîte à chaussures, on fait un petit trou dedans, on met la balle dedans et elle ressort 2 secondes après, mais elle a disparu un petit peu. Donc, voilà, il y a cette permanence de l'objet qui est en train de travailler et l'enfant va répéter pour intégrer cette notion. Il y a le jeu du cachet-coco aussi qui est très instructif. Ensuite, vers 12 mois, on voit son enfant qui va pointer beaucoup du doigt tout ce qui l'entoure. C'est là où il a envie vraiment de découvrir le nom des objets. Bah, on va lui nommer. Donc ça, c'est pareil. C'est très facile à accompagner pour développer le langage oral. Toujours pour enrichir son vocabulaire, on va lui présenter des imagiers. Ça, c'est un matériel super pour nommer chaque chose. Et on va essayer de choisir des imagiers avec des photos parce qu'on veut vraiment ancrer l'enfant dans la réalité, avoir des éléments le plus précis possible, comme ce qu'il y a voilà, dans le monde qui l'entoure. On offre le monde à l'enfant, donc on essaie d'être le plus précis. Et puis, dans 18 mois, c'est ce dont je parlais, c'était la période de collaboration. Donc, on va beaucoup inviter l'enfant avec nous pour cuisiner ensemble et dans les activités de la vie quotidienne. Voilà, avec des gestes précis, des gestes lents, décomposer au maximum les étapes pour qu'il s'approprie notre présentation. Et puis ensuite, il va faire l'activité de plus en plus en autonomie. C'est pour ça qu'on disait quand est-ce qu'on peut proposer, faire du Montessori à la maison le plus tôt possible, parce que c'est vrai que plus on les intègre dans nos gestes du quotidien, plus ils deviennent autonomes et ils se débrouillent super bien après. À 6 ans. Et voilà, vers 2 ans, l'enfant, il est de plus en plus capable de faire seul. On lui montre comment prendre soin de lui, qu'il apprenne à se laver les mains à l'aide d'un marchepied ou d'un petit meuble où tout est adapté, à s'habiller. On va lui montrer comment enlever ses vêtements, les enfiler. Et on va choisir du coup des vêtements faciles à enfiler, des gilets à gros boutons, des pulls à encolure large, des jogging avec des élastiques, des chaussures à scratch. Tout ça, on va essayer de faciliter tout ça pour que l'enfant soit le plus autonome possible. Voilà. Et puis en fil rouge, tout au long de ces années, il y a les activités sensorielles pour éveiller chaque sens, les activités de coordination à humain, donc tout ce qui est boîte à encastrement, voilà, tout ce qui va permettre à l'enfant de travailler sa dextérité de ses gestes, voilà, l'enrichissement du langage. Et puis 3-6 ans, c'est en tout cas en école, donc c'est tout ce qui est plateau de vie pratique et ce qu'on peut mettre aussi en place à la maison, dans le salon. On met par exemple un petit plateau avec un petit vaporisateur, une petite éponge. On va pouvoir montrer à l'enfant comment essuyer les feuilles, arroser la plante. Et c'est un petit plateau qu'on va laisser dans le salon. Et c'est super parce qu'il va aller, il va voilà, prendre beaucoup de plaisir à prendre soin des plantes. Donc, on va l'ancrer aussi à la nature et c'est super pour qu'il en prenne soin. On peut aussi proposer un petit kit de nettoyage, une petite balayette à la taille et à la main de l'enfant. Et ça, c'est super parce que quand il renverse quelque chose, parfois, on a souvent le réflexe de dire « c'est embêtant ». Là, le réflexe va changer. On va lui l'inviter à aller chercher sa petite pelle et balayette et il va être super fier de prendre son temps. Et même si ce n'est pas parfait, il prend du plaisir, ça nous aide, il est impliqué, il est responsabilisé, il peut aller réparer son erreur en final, parce que dans Montessori, chaque erreur est gage d'apprentissage. Puis après, voilà, le matériel, il va évoluer, le matériel sensoriel va lui permettre de développer sa pensée logique parce qu'on va jouer, par exemple, à mettre en paire des mêmes odeurs. Donc, on peut fabriquer à la maison des bouteilles à odeurs où on va lui faire sentir des épices. Dedans, on va mettre des feuilles de menthe, des feuilles de romarin, des fleurs, et puis on va les sentir. Et puis, on va fermer les yeux, puis on va essayer de les retrouver. On va retrouver les deux mêmes. Pareil pour les couleurs, on va mettre en paire les mêmes couleurs. Voilà, il y a vraiment l'éveil sensoriel et puis le travail de logique, de gradation, de comparaison, de mesure, tout ça qui va permettre de travailler cet esprit mathématique. Voilà, on peut lui faire découvrir aussi toute la géographie, toute la culture du monde, apprendre le nom des continents, les pays, les animaux qui vivent dans chaque pays, les découvertes de la cuisine du monde. Vraiment, tout est... De 3 à 6 ans, il y a une période incroyable où l'enfant, il est vraiment friand de découvrir tout ce qui l'entoure. Donc, voilà, on peut vraiment le nourrir vraiment de choses très approfondies. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser du langage précis, d'aller vraiment loin dans ses apprentissages à partir du moment où il est présent, il est intéressé, il faut y aller. Le langage, bah, c'est aussi des livres. C'est super comme outil pour vraiment... Bah voilà, parler de tous les sujets, toutes les thématiques, faire découvrir le monde à l'enfant. Pour le langage, il y a aussi tout ce qui est les figurines d'animaux. Alors voilà, il y a des marques qui sont plus ou moins précises pour avoir des figures très détaillées. Donc voilà, après, pour revenir au livre, c'est un support magnifique pour aborder des sujets parfois difficiles dans la vie de l'enfant, le sommeil, l'alimentation, la séparation. Voilà, c'est des thématiques qui sont abordées simplement et à travers lesquelles on peut discuter en lisant le soir un petit livre. Il y a vraiment tellement de choses qui sont possibles, quoi, avec l'enfant. En fonction aussi de nos passions à nous, parce que ce qui est dit, c'est qu'on ne transmet pas de mieux que ses passions, parce que l'enfant, encore une fois, avec ce modèle de cet apprentissage par modélisation, il a soif d'apprendre, et puis il boit en fait tout ce qu'on lui partage, et quand on incarne, qu'on est vraiment passionné, bah, l'enfant, il le sent, et il va prendre tout ça 10 fois plus facilement qu'autre chose, quoi.
Ça marche. Bah écoute, je pense qu'on a déjà fait un bon tour,
ouais,
de tout ce qu'on peut faire et de tout ce qu'on peut dire là-dessus. Moi, j'ai fait le tour des questions que, ouais, j'avais. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter en conclusion ?
Je voudrais juste te dire que Montessori, parfois, on a l'impression que c'est compliqué parce que bah, là, je parle beaucoup de théorie, je rentre vraiment dans toutes les périodes sensibles. Ça peut mettre la pression aux parents parce qu'on a peur de ne pas tout maîtriser et du coup, de ne pas se lancer parce qu'il faut faire les choses bien, être perfectionniste. Et non, en fait, il faut vraiment juste... Je pense que la première étape, c'est apprendre les besoins de l'enfant et puis naturellement, en fait, on va s'adapter... parce qu'on va y répondre à notre façon et c'est ça qui est le plus important. C'est un peu ça, Montessori, c'est vraiment comprendre qui est l'enfant et puis aussi prendre soin d'exprimer aussi ses besoins en tant que parent. Et puis vraiment, voilà, être ensemble, on vit ensemble et de s'accorder voilà, pour vivre ensemble.
Ben écoute, ça me semble une belle conclusion. Merci beaucoup.
Ben super, merci beaucoup, j'étais ravie.
Cet épisode touche à sa fin. Si cet épisode vous donne envie de tester des activités avec vos enfants, envoyez-moi vos photos à parentsinformés@gmail.com. Pour retrouver les ateliers en ligne et les accompagnements proposés par Élise, rendez-vous sur le site internet www.mohm.fr. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.